Hashtag, un autre regard sur le handicap.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Hashtag, l'émission qui donne la parole à des personnes en situation de handicap afin d'évoquer leur parcours de vie, leurs projets, leurs préoccupations et leur permettre de débattre sur des thématiques diverses qui les concernent. Le mois dernier, nous avons présenté le duo D et plus largement l'insertion professionnelle par le biais de différents dispositifs existants. Aujourd'hui, nous allons parler de mobilité et notamment de stages de cours intensifs au permis de conduire qui ont lieu au complexe euroméditerranéen de Montrodà. Pour cela, toujours à mes côtés, Anne Clément, directrice de la communication au Claude Uni. Bonjour Anne.
Bonjour, et puis j'en profite pour souhaiter une bonne année à tout le monde.
Et oui, je manque à mes devoirs. Bonne année à tout le monde, à tous nos auditeurs, auditrices et à toutes les personnes qui sont également passées dans cette émission. Et on sait qu'ils nous écoutent, qu'ils écoutent les émissions suivantes.
Et ça fait déjà un an qu'on est à l'antenne pour cette émission.
C'est vrai, ça fait déjà un an et on est intarissable parce qu'on a encore plein d'autres sujets à traiter. Nous avons aujourd'hui avec nous Vincent Bardou, directeur général d'A2LFS, gestionnaire du complexe euroméditerranéen de Montrodà. Bonjour.
Bonjour.
Christophe Manouvrier est là, responsable de l'auto-école adaptée du complexe. Bonjour.
Bonjour.
Audrey Combe, coordinatrice mobilité au département de la Lozère. Bonjour.
Bonjour.
Et nous avons Chafi Bifuco.
Bonjour.
Qui a réalisé un stage de code intensif et qui va pouvoir un peu nous parler de son expérience parce que c'est l'objet de l'émission d'aujourd'hui. Alors ce projet de stage de cours intensif s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec le département de la Lozère et la préfecture et s'étend à tout type de personnes qui peuvent être en situation de vulnérabilité. Donc c'est assez large aujourd'hui l'émission, on va peut-être sortir un peu du thème du handicap, bien qu'on va en parler. Audrey Combe, alors si j'ai bien préparé mon sujet, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du pacte des solidarités signé en 2024 entre l'État et le conseil départemental de la Lozère, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Donc j'ai bien travaillé.
Tout à fait.
Alors il prend le relais de la précédente stratégie pauvreté, c'est ça qui était depuis 2018 en place?
Oui, jusqu'en 2022, c'était la CALPAE et aujourd'hui c'est le pacte des solidarités.
Alors c'est quoi ce pacte des solidarités?
En fait, c'est pour définir des actions à destination des personnes les plus vulnérables et donc sur différents thèmes, l'enfance, l'insertion professionnelle. Et donc, voilà, différentes actions ont été proposées dans ce cadre-là, dans ce qui a été signé avec l'État.
D'accord. Il a été signé pour combien de temps?
Pour 3 ans.
Pour 3 ans. D'accord. Renouvelable, j'imagine, après?
En fonction des finances.
On va espérer. Oui, ça, c'est une question un peu plus compliquée. On demandera à notre futur ministre des Finances, un de ces jours, s'il reste assez longtemps pour proposer un budget. Quels sont les types d'actions du pacte qui concernent la mobilité, vu que c'est le thème de la journée?
Alors, il y a une action phare qui est celle dont on va parler aujourd'hui, mais il y a aussi de la mise à disposition de voiturettes, il y a de l'accompagnement à l'insertion professionnelle en levant le frein mobilité, donc des accompagnements avec des diagnostics mobilité. Et de la mise à disposition, donc, ou de scooters, de vélos, ou effectivement de voiturettes pour permettre de se rendre au travail ou à un stage ou une entrée en formation.
D'accord. Donc c'est assez large. Ça s'adresse à quel type de public?
Tout public qui se retrouve empêché, qui n'a pas de voiture, qui n'a pas de moyens, qui a des difficultés économiques, qui peut avoir un handicap aussi, effectivement, qui veut accéder à un emploi.
Qui vient de toute la Lozère.
Oui, tout à fait.
Vincent Bardou, tout le monde connaît le Claude Uni, peut-être un peu moins la 2LFS. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous présenter l'association?
Ben écoutez, oui, avec plaisir. La 2LFS est une association qui va fêter ses 100 ans en 2025, donc implantée sur le département depuis longtemps et qui a une histoire, puisque c'est une structure qui a été créée, en fait, qui est issue, comme beaucoup de nos associations, d'une congrégation religieuse. Et en fait, au fil du temps, donc ça, elle s'est laïcisée. Et donc maintenant, c'est une association qui a pris quand même un essor sur la Lozère et qui gère aujourd'hui une quinzaine d'établissements et ou de structures et d'activités diverses et variées, puisque on est à la fois sur le champ du sanitaire, puisqu'on gère 4 établissements sanitaires sur la Lozère, dont le centre de rééducation fonctionnelle de Montrodà, qui est, je crois, assez bien connu par les Lozériens, mais aussi une structure d'addictologie à la Canourgue, et sur Entrenas, un établissement obésité pédiatrique et un établissement de pneumologie. Et ensuite, le deuxième pilier de notre association, c'est le médico-social, donc avec de l'accueil d'enfants et d'adultes vivant avec un handicap, avec différents types d'établissements. Ça va d'une maison d'accueil spécialisée sur Sivergold, d'un ESAT et d'un foyer d'hébergement, mais aussi un institut d'éducation motrice aussi sur le site de Montrouda. Et puis ensuite, une multitude, on va dire, d'activités. Et puis surtout, depuis 2025, j'allais oublier parce que c'est tout récent, un CESAD, donc qui vient d'être créé et qu'on lance donc sur cette année 2025, et qui a pour objectif de justement venir en aide auprès d'enfants en situation de polyhandicap.
À leur domicile.
À leur domicile, tout à fait. Tout à fait, à leur domicile. Et ensuite, on a toute une multitude, en tout cas beaucoup d'activités assez variées qui vont donc de l'auto-école, dont on va, je pense, assez longuement en parler aujourd'hui, mais aussi un centre de formation.
Donc ça, c'est le complexe euro-méditerranéen.
Le complexe euro-méditerranéen, voilà, c'est ça. Avec cette activité de formation, une activité sur le complexe, donc un complexe, un village de gîtes, et un centre sportif, un complexe sportif, avec la spécificité d'être dédié principalement à des personnes en situation de handicap pour faire du sport, du loisir et des vacances, mais aussi une maison sport-santé, donc qui existe depuis quelques années et qui se développe de façon relativement importante, et puis un centre d'appareillage où on fabrique des prothèses, des orthèses, du gros appareillage, et où on fait aussi de la vente et de la location de matériel médical depuis maintenant une petite dizaine d'années. L'idée étant que d'essayer de faire en sorte que le reste à charge, puisque c'est un vrai problème pour les patients, hein, ce reste à charge qui a tendance à augmenter, et donc étant une structure privée non lucrative, on a essayé de créer cette activité-là pour justement, avec comme objectif, d'avoir un reste à charge qui soit le plus faible possible. Donc, pour rester dans la volonté et la philosophie de notre association, donc structure privée non lucrative. Et puis aussi en 2025, une grande nouveauté, l'A2LFS vient de créer une fondation qui s'appelle la fondation Andy Bloom, et qui donc qui est sous égide, abritée par une fondation qui s'appelle la fondation Saint-Pierre à Palavas, et qui va avoir vocation d'essayer de développer, de venir en aide sur le département de la Lozère, à essayer de pouvoir financer des projets qui vont venir en aide à des auprès d'enfants en situation de polyhandicap et leurs familles. Donc voilà l'ensemble de l'activité de l'A2LFS, et ce qui fait que sur le département de la Lozère, l'A2LFS est une association et un employeur. Hein. Alors c'est la conséquence, c'est pas l'objectif, mais c'est
la conséquence. J'allais vous dire, avec tout ça, il y a combien de salariés ?
On est un peu plus de 500 salariés en équivalent temps plein. Donc ça, à l'échelon de la Lozère, ça doit être un des deux ou trois plus gros employeurs.
C'est ce que j'allais vous dire avec l'hôpital.
Voilà, exactement. En tout cas, dans les employeurs privés, le Clos du Nid est un petit peu plus gros, et après, c'est l'A2LFS. Voilà.
Oui, donc on s'est arrêté, enfin moi je m'étais arrêté à me dire ça propose des accompagnements aux personnes en situation de handicap, mais en fait c'est extrêmement large quoi.
Tout à fait, c'est large, et donc et l'activité sur le code intensif, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de développer pour être le quatrième pilier, je dirais, de notre association, pour s'ouvrir sur l'action sociale, le social à proprement parler. Et donc on a des projets sur 25 et ensuite pour essayer de développer à partir de ça d'autres actions dans le champ social. En tout cas, c'est une volonté qui est portée par notre conseil d'administration et par notre président, qui est le docteur Jacques Blanc.
Combien de personnes sont accueillies, du coup, au sein de toutes ces structures ? On a un chiffre en tête ?
Bah écoutez, si je compte, alors, d'une façon générale, en comptant y compris les places du village de Gîtes sur l'aspect touristique, on a plus de 600 places, lits ou places, mais qui se répartissent de façon relativement équitable entre le médico-social, le sanitaire et cette activité que je qualifierais de non réglementée, mais enfin au sens du code de l'action sociale et des familles.
C'est 600 places, mais beaucoup plus de personnes accompagnées, puisque une place, en fait, peut être occupée par plusieurs personnes, hein, puisque sur les centres médicaux, sur les services médicaux de rééducation, par exemple, une personne vient pour 2 mois, 3 mois.
Ça, les durées de séjour,
voilà, les durées de séjour.
Autant sur la partie médico-sociale, on a des durées de séjour qui se comptent en années, hein, et sur le sanitaire, effectivement, en règle générale, d'un point de vue technique, nos établissements, c'est ce qu'on appelle des SMR, des services médicaux de réadaptation. Et dans ces services-là, les durées moyennes de séjour sont de l'ordre d'une quarantaine de jours en moyenne. Donc, effectivement, ça fait des cohortes de patients beaucoup plus importantes.
Du coup, comment s'est fait le lien avec ce pacte des solidarités, Audrey, à 2LFS et donc cette auto-école adaptée?
Alors, comme bien souvent à l'origine des projets, ce sont des rencontres. Donc, effectivement, la directrice des solidarités chez nous avait en tête ce projet qui existait sur un autre territoire. Et en allant rencontrer l'association A2LFS, a vu aussi tout le potentiel, justement, avec l'auto-école qui était adaptée sur place et avec une possibilité d'hébergement. Donc c'est à ce moment-là que voilà, la discussion s'est faite et que finalement ça a été très vite. Ce projet s'est monté de façon assez naturelle et rapide.
En fait, ça, c'est la conjonction des choses. Il y a eu, il y a maintenant 2 ans, ou 1 an et demi, une opération qui s'appelle Andilos, qui est portée par le département et qui donc s'était faite sur le complexe euro-méditerranéen. Et en fait, avec un moment fort, avec la venue à l'époque de la secrétaire d'État chargée du handicap, Madame Darrieussecq. Et en fait, dans les discussions, en faisant visiter l'établissement, en expliquant ce que l'on fait, en fait, le département a vu qu'il y avait cette auto-école, et puis de fil en aiguille, on a pu démarrer, effectivement, dans un délai extrêmement rapide. Ça fait à peine plus d'un an, et on en est, je crois, on vient de finir le cinquième stage. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui a vraiment pris, puisque du coup, ça fait maintenant presque une soixantaine de stagiaires qui ont pu être accueillis. Et je crois que tout le monde est plutôt ravi de ce qui se passe dans ce projet.
Oui. Vous avez parlé d'hébergement. C'était un prérequis indispensable, l'hébergement?
Alors, la formule se voulait intensive. Et qui dit intensive dit pouvoir se consacrer à l'apprentissage et vraiment de se mobiliser pour ça. Du fait que ce soit ouvert à tout le monde, enfin venant de toute la Lozère, imaginez des allers-retours le matin, le soir.
Sans permis.
Voilà, en plus. c'est fatigant, plus 5-6 heures d'apprentissage du code dans la journée. Donc l'idée, c'était vraiment de faciliter cet apprentissage et donc de pouvoir offrir des conditions optimales, d'où effectivement le fait de pouvoir rester sur place, dormir et créer du lien avec les autres. Et on a vu qu'effectivement, c'était très positif le fait que les stagiaires puissent aussi partager des moments de vie le soir, après la journée de stage, qu'ils puissent faire du lien, qu'il y ait de l'humain. Et ça a créé des émulations aussi.
Alors,
de l'entraide.
Vous pouvez revenir, comment ça se passe le stage? Alors, c'est quoi le format du stage que vous proposez?
Donc, le stage dure 2 semaines. En fait, il va du lundi au vendredi. Les personnes rentrent chez elles le week-end et reviennent la semaine suivante sur la même durée, du lundi au vendredi. Voilà, et donc de 8h30 le matin jusqu'à 17h.
Voire plus. Pour les plus motivés.
Oui, parce que Christophe propose aussi de pouvoir faire des tests non surveillés, en tout cas en liberté, en autonomie, voilà, on va dire ça comme ça, pour ceux qui sont motivés, qui ont envie d'en faire plus le soir encore. Donc, effectivement, il y en a pas mal qui participent.
Oui, c'est ça. Disons qu'ils ont la possibilité d'utiliser le matériel. Donc, on est quand même bien équipé en termes de matériel pour ouais, en termes d'outils pédagogiques. Et donc, du coup, voilà, la journée est déjà bien intense. Mais je propose toujours pour les plus motivés de pouvoir poursuivre un petit peu l'acquisition des connaissances sur la fin de journée. Et d'autres font des activités donc externes qu'on parlera peut-être.
On peut en parler maintenant.
Justement, voilà. Donc ouais. Ceux qui font pas d'heures sup ont droit à des activités.
Alors tout le monde peut quand même participer. Il y a effectivement l'association de ZLFS, mais aussi à disposition. Il y a une salle, une très belle salle de musculation. Qui, voilà, dont les personnes peuvent profiter.
Ça marche
profiter.
Sur Chafilly.
Oui. Et puis effectivement, il y a aussi un temps chaque semaine qui est organisé avec les personnes en situation de handicap du centre.
Oui, c'est du sport, c'est du hand-fauteuil. Et donc du coup, ça a été très apprécié par les gens parce que voilà, il y a eu un contact avec les personnes en situation de handicap qui sont sur place et parce que c'est un petit peu leur maison. Hein, donc du coup, ils ont, voilà, avec les éducateurs sportifs, et ils ont participé à des petits matchs de hand-fauteuil et voilà, qui a été très apprécié. Ouais.
En fait, l'idée, enfin, pour répondre à votre question sur pourquoi de l'hébergement, c'était aussi de créer cette dynamique, mais aussi permettre à des personnes qui arrivent pour ce stage, qui peuvent avoir des difficultés matérielles ou autres importantes, aussi de se décharger de tous ces problèmes pendant le temps du stage, donc de pouvoir se recentrer. Et puis, l'idée aussi, c'est de leur proposer un environnement qui permette alors effectivement il y a la question et l'objectif c'est bien d'avoir ce code plus à terme le permis de conduire puisque la question de la mobilité notamment en Lozère est une vraie question pour pouvoir simplement s'insérer et travailler mais au-delà c'est aussi dans cette dynamique là avoir la possibilité de se reconstruire ou de souffler en tout cas à minima pendant ces 15 jours et de profiter au-delà du travail essentiel sur le code de la route, d'avoir une ouverture un peu sur l'extérieur. Donc il y a effectivement cette approche, cette initiation, cette découverte du handisport, hein, donc, avec aussi cette notion d'être en situation aussi de pouvoir aider d'autres personnes, et donc d'avoir cet échange et d'un peu changer le rôle de chacun. Donc ça nous paraît quelque chose d'important, ne serait-ce que pour l'estime de soi. Donc ça fait partie aussi de la démarche. Et c'est pour ça aussi qu'à côté de ces activités handisport, on propose d'autres activités. En général, on a une diététicienne qui vient donner un peu des conseils ou des informations sur c'est quoi une bonne diététique. On a eu des interventions sur la manutention des charges. On a eu en fait, des choses comme ça. On a vu à un moment donné sur comment faire un CV. Donc en fait, l'idée, c'est de se servir aussi de ce support pour avoir une ouverture un peu plus générale. Alors, sans perdre de vue que l'objectif premier, c'est effectivement le code de la route. Hein.
Mais voilà. Comme le disait Audrey, ils font quand même 6 heures de code intensif, voire même un peu plus pour les plus motivés. Donc du coup, voilà.
Et puis le fait de rester pendant 15 jours, deux fois 5 jours, puisque le week-end, ils rentrent chez eux, ça crée aussi une dynamique de groupe. Donc les gens on voit bien qu'il y a une entraide qui se met en place. Et ça, je trouve que c'est plutôt positif dans la réussite. C'est-à-dire qu'en fait, on a effectivement cet objectif, mais c'est aussi un support sur d'autres choses. Et l'idée, c'est qu'un stage vraiment réussi, c'est à la fois d'avoir la réussite au code, ou en tout cas d'avoir progressé, d'être lancé pour passer ce code de la route, mais aussi de montrer que en tout cas, moi, ce que j'espère, c'est y compris quand les gens ressortent de là, alors, ils n'ont pas leur code tout de suite pour certains, mais qu'au moins ils ressortent avec une estime d'eux grandie parce qu'il y a eu ces échanges, parce qu'ils ont peut-être vu d'autres choses, ils ont eu un temps pour souffler et d'avoir cet environnement peut-être plus favorable que le quotidien que certains d'entre eux peuvent avoir.
Bien sûr, et ça peut être aussi bénéfique pour les personnes en situation de handicap, c'est cette ouverture vers l'extérieur.
Ah bien sûr, ça c'est bien sûr cette notion d'échange. Et alors le sport est un très bon vecteur par rapport à ça, c'est-à-dire qu'à la fois les personnes en situation de handicap ont partagent quelque chose, mais surtout il y a un partage, on fait avec, et très rapidement la notion de handicap, elle devient quasiment secondaire. Hein. Donc il se passe quelque chose, on fait du sport et il y a un partage, et c'est bénéfique pour les, à la fois nous, pour les résidents de l'IEM, et je pense aussi pour les stagiaires à qui ça leur donne, c'est une expérience qui est quand même intéressante.
D'autant plus que les résidents de l'IEM sont aussi, font partie de mes élèves de l'auto-école, donc ils ont participé aussi à des cours croisés le soir de 5 à 7, et donc du coup ils ont pu aussi apprendre les uns des autres par rapport à ça. Hein. Et donc du coup, voilà, ça reste quand même aussi des élèves qui sont aussi potentiellement
D'accord,
vers la mobilité.
Du coup, avant de passer la parole à Shafi pour qu'il nous parle de son expérience, justement, ces cours entre les personnes en situation de handicap ou les personnes en situation de vulnérabilité sont les mêmes, ça change, il y a une approche différente ou pas ?
Alors l'approche est compliquée parce que ça dépend du groupe. Je suis dans l'obligation de m'adapter au groupe, de m'adapter aux personnes. C'est le but de l'auto-école déjà à la base. Chaque personne est unique et donc on est obligé de faire la part des choses et d'essayer de répondre aux attentes de chacun. Et donc du coup, mettre des personnes qui sont pas forcément en situation de handicap ou en situation de handicap, les problématiques restent de fond, restent les mêmes, que ce soit dans la formulation, dans l'apprentissage ou les choses comme ça. Donc du coup, je fais pas vraiment de distinction. J'essaie surtout de répondre aux attentes de chacun.
D'accord. C'est vraiment une pédagogie adaptée à la personne, à chaque personne.
C'est ça, parce que voilà, si on parle de handicap, chaque cas est unique, et que ce soit dans l'aménagement de la voiture ou que ce soit dans l'aménagement de l'apprentissage, on est sur des cas uniques, donc ça demande beaucoup de flexibilité et d'essayer de s'adapter au mieux aux attentes de chacun.
Bon, déjà alors, Shafi, déjà le code, après cette période de code intensif, est-ce que tu as obtenu ton code ?
Oui, je l'ai obtenu du premier coup.
Du premier coup ?
Oui.
Ah ben, félicitations.
Félicitations. Merci. Voilà, donc là on a discuté un peu avant l'émission, tu es en train de passer le permis, c'est ça ?
Oui, je suis à conduite. L'auto-école va là.
D'accord.
Oui, c'est Pôle emploi qui m'ont recommandé là-bas. Mmh. Oui, mais ça se passe bien. Vraiment, j'ai apprécié ces moments. Et j'ai apprécié l'équipe en commun. Et à commencer par l'association Habitat Urbanisme. Et dans les programmes, j'étais inscrite dans les programmes Agir. Vraiment, ça s'est bien passé. Et j'ai aimé l'expérience, et surtout de notre formateur, M. Christophe, comme il est dit. Il a vraiment pris son temps, parce que dès le début, c'était un peu compliqué pour moi. Et je voyais, il y avait plusieurs panneaux, et je ne m'attendais pas qu'un jour j'arrive à avoir des connaissances, et que j'arrive à avoir ces confiances en moi, que je peux aussi conduire. Mmh. Et avec ces codes intensifs, ça m'a permis vraiment, dans un bon climat, dans une bonne équipe, de quand même d'avoir des connaissances, et pour le moment quand même je suis confiant et tout se passe bien.
Mmh. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené, Shafi, à intégrer ces stages, hein? Pourquoi ? Qu'est-ce qui... Vous avez besoin du permis ? Vous habitez où ? Quelle est un petit peu votre histoire qui vous a amené à vous inscrire dans ce stage ?
Ok, merci pour la question, madame. Et ce qui m'a amené à m'inscrire, premièrement, c'est mes problèmes de se déplacer pour l'emploi. J'ai aussi une famille et j'habite à Chanac. Chanac, c'est un peu à côté. Et alors, ces codes intensifs, vraiment, j'en avais vraiment besoin, et pour que ça me permette d'être un peu autonome et aussi de savoir les codes de la route française. Et comme... Et je n'avais pas assez de connaissances pour ça. Vraiment, ça m'a permis. Et ça se passe bien pour le moment. Et à bientôt, je serai en conduite et autonome.
Et vous aviez déjà tenté de passer le code et ça avait échoué, ou c'était votre première tentative ? Enfin, vous aviez, avant d'intégrer ce stage intensif, vous aviez déjà essayé une démarche pour avoir le code ?
Pas encore.
Non, pas encore, voilà. Donc ça a été l'occasion vraiment.
Vraiment, oui, ça a été l'occasion, oui.
Ok. Et du coup, alors, quelles étaient vos difficultés quand vous êtes rentré?
Oh, mes difficultés avant, et comme dès mon premier jour, je les avais expliquées à mon formateur Christophe. Oui, je les avais dit, j'avais des difficultés à reconnaître des priorités. Et comment me comporter dans un giratoire, il me les a expliquées. Et aussi des panneaux, et il me les a expliqués, il nous a montré, il a fait des dessins pour que chacun de nous comprenne et comment ça se passe. Et que même s'il y a des gens qui ne parlaient pas bien français et qui ne comprenaient pas bien, mais quand même, il faisait son mieux, même par des gestes, pour que chacun de nous apprenne quand même quelque chose. Et vraiment, c'était bien.
Christophe, c'est vrai que des fois, les tournures de phrases sont compliquées à comprendre. C'est-à-dire que les personnes connaissent les panneaux, connaissent le code de la route, mais la tournure de phrase est faite telle qu'on ne comprend pas forcément si on n'a pas une maîtrise parfaite de la langue française.
Oui, en effet, il y a dans le programme qui avait été prévu, donc il y a une partie courte, pure, d'apprentissage, en utilisant des méthodes diverses et variées, comme le visuel, l'auditif, bien sûr, l'écrit aussi, parce qu'il y a des gens qui prennent des notes, et les reprises de notes permettent aussi d'évoluer aussi par la suite et faire un travail après. Mais il y a, dans le programme est prévu, dans les après-midi, un travail sur la formulation des questions, parfois le sens caché et aussi donc le vocabulaire, c'est-à-dire tout le vocabulaire qu'il y a à apprendre, qui est lié au code de la route, qui n'est pas toujours accessible. Un français un vocabulaire plutôt faible n'est pas toujours accessible. Et bien sûr, les personnes qui sont...
Hein, il parle de giratoire, nous on parle de rond-point. Hein,
c'est ça. Enfin... Donc il a fait la différence. Je suis bien content qu'il ait remarqué. Et donc du coup... Pour les personnes qui sont d'origine étrangère, c'est encore plus compliqué parce que voilà, le vocabulaire il est absent et il n'est pas inné. Donc du coup, il y a un travail de fond aussi là-dessus.
Oui, c'est pas toujours simple. Je suis venu faire un reportage, on fait un partenariat avec le département de la Lozère. Vous en saurez plus prochainement sur des actions de mobilité. Je suis venu à une session de code, il y a des panneaux, mais alors je ne connaissais pas du tout ce que c'était.
Le code évolue, et donc en effet...
Et très compliqué, oui. Et par contre, il y a un truc que j'ai remarqué en interviewant les personnes qui passaient le code et sur ce que vient de dire Chafi, c'est le travail en équipe. Beaucoup d'élèves m'ont dit ça. Ils m'ont dit on était seuls dans notre chambre avec une application et on n'y arrivait pas. Et ce code intensif de se retrouver tous ensemble constamment, c'est quelque chose qui nous a permis d'être attentifs et de rester concentrés. Ouais,
nous,
d'être présents.
On parle d'effet de groupe. Forcément, le groupe se compose. Moi, je fais un peu le joint, on va dire, entre toutes les personnes et essayer de faire que tout le monde s'entende et d'harmoniser un petit peu tout ça. Mais malgré tout, il y a l'effet de groupe. Ils se motivent entre eux et je pense que ça participe aussi à la réussite aussi de ces stages.
Alors l'effet de groupe, et puis je pense qu'on peut le souligner aujourd'hui, c'est l'occasion, l'efficacité de Christophe quand même aussi, hein, puisque chaque stagiaire, enfin vous-même Chafi, vous l'avez dit, hein, l'efficacité de Monsieur Christophe, qui est souligné dans chaque petit questionnaire de satisfaction que Audrey vous remettait à la fin, il y a 100% de satisfaction pour Christophe, donc là, la réussite des stages est aussi quand même due à la qualité du travail mené par Christophe et ses facultés d'adaptation, d'écoute, de patience, de répéter. Donc, on peut le souligner ici. Je crois que c'était l'occasion.
Hashtag Ludovic Terrol, Anne Clémence.
C'est pas trop dur faire que ça pendant 2 semaines. Code. On en a pas marre au bout d'un moment.
Avec ces stages, c'est pas trop difficile parce que en tête on est préparé psychologiquement et puis on est tous concentrés et il y a tout ils mettent quand même l'équipe, l'organisation, organisateur, quoi, ils mettent quand même en disponibilité toutes les choses qui nous divertissent et pour quelques temps, malgré que ce n'est pas notre priorité, quand même il y a du sport, il y a une salle de muscles. Et il y a aussi des fois où il y a des séances qu'on fait, des tests qu'on faisait avec, avec les enfants en situation d'handicap. Et aussi, ils se débrouillent bien. Et d'ailleurs, je félicite encore M. Christophe pour ça, parce qu'il y a d'autres choses. Et on participait ensemble à d'autres tests, souvent pendant les heures supplémentaires, après les séances. Et c'était bien. Et aussi, on était logés dans de bonnes conditions. Et il y avait aussi des repas. Vraiment, ça nous a donné quand même cette chance-là de bien apprendre.
Donc l'ambiance y est pour beaucoup aussi. Voilà, vraiment, la convivialité, oui. L'ambiance, l'effet de groupe, l'infrastructure,
le collectif. Oui, tout, vraiment, c'était bien.
Le but, c'était de délester un petit peu le quotidien lourd pour pouvoir vraiment se consacrer essentiellement au code. Donc ils étaient libres de se consacrer vraiment au code. Tout le reste était harmonisé, organisé, en fait.
Oui, c'était organisé, vraiment.
Puis après, il y a aussi, vous avez bien dit, la difficulté pour certains, il y a beaucoup d'applications, de choses comme ça, mais il faut que ces applications, quand ça vient en complément, c'est sûrement très bien, mais rien ne remplace l'échange direct, cet échange humain et cette dynamique de groupe. Et du coup, là, les cinq stages qu'on a pu faire, on voit que cette dynamique, elle est extrêmement importante. Et en tout cas, elle ressort dans les bilans que les stagiaires font. Et au-delà de l'aspect technique, on va dire, des connaissances qui sont transmises, il y a cette notion-là qui, je crois, est mise en avant et devient même presque plus importante. Et bon, en tout cas, moi, c'est ce que j'espère, c'est ce que je me dis, et va pouvoir permettre à chacun de faire des choses après ce stage et indépendamment de la partie technique et conduite. Je crois qu'il faut essayer ce que j'essaye de dire là, c'est que le code de la route, c'est un support, mais c'est pas une finalité en soi. Alors effectivement, pour la mobilité, pour l'inclusion future, on sait que c'est indispensable. Mais ce qui est tout autant important, voire peut-être plus important, c'est ce qui peut se passer. Il y a eu des histoires. Enfin, après, ça se confortera ou pas, mais il y a dans certains groupes des stagiaires qu'on est, mais on sent qu'il y a des amitiés qui naissent. Donc il peut y avoir aussi des solidarités qui vont se perdurer au-delà de ce stage. Et si effectivement ça se passe derrière, c'est aussi une vraie, enfin, me semble-t-il, une vraie réussite. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on essaie de construire. Au-delà de la partie purement technique, quoi.
Oui, effectivement, au-delà des réussites pures au code de la route, qui reste, bon, on va dire à peu près à 50% à ce jour, hein, ce qui est très important, c'est effectivement les effets induits autres, en fait, en termes d'inclusion, de partage, de changement. Il y a des gens qui ont été métamorphosés, en fait, par ces stages. Parce qu'ils ont eu la possibilité, effectivement, de partir de chez eux 15 jours, ce qui n'était pas évident forcément à la base. Tout le monde, c'est pas facile pour tout le monde, hein, de partir, de laisser des fois des enfants, pendant une semaine. On n'a jamais eu l'habitude de faire ça, on ne s'est pas organisé pour, et là, il faut y aller. Donc c'est déjà des fois un très grand pas pour certaines personnes. Et effectivement, par contre, après... Voilà, dans les choses qui sont difficilement mesurables par des chiffres, mais en tout cas, on voit des évolutions phénoménales de personnes qui, effectivement, ont repris confiance en elles. Ça a été un cap, ça a été aller vers les autres, ça a été j'ose des choses pour aller au travail, ou en tout cas, je me vois différent aussi. Voilà, donc c'est hyper, hyper important. C'était pas forcément quelque chose qui était recherché au départ, en fait. Hein. On se disait, on veut favoriser la mobilité des gens, et donc on voit qu'il y a une difficulté qui est l'accès au code de la route, parce qu'effectivement, il est très compliqué. Les formulations de questions sont effectivement un peu tendancieuses. Mais en tout cas, ce qui est très positif, c'est de voir ce qu'il en ressort aujourd'hui, quoi.
Et vous, Christophe, vous le percevez, le avant, le après, outre le fait qu'ils aient appris des choses, vous voyez des stagiaires avant, après, dans leur personnalité, s'ouvrir, changer
Oui, parce que le code de la route est un support, c'est du vivre ensemble, hein, le code de la route. Bon, il y a des règles à apprendre. Malgré tout, on vit ensemble sur la route et donc du coup, il faut qu'on apprenne les règles et il faut qu'on apprenne aussi le comportement qu'on doit avoir avec les autres. Et donc du coup, forcément, ça rentre aussi, on pourrait dire, dans l'éducation routière, dans le sens où les personnes aussi, je les sensibilise à avoir un comportement sain, adapté et adéquat aux situations qu'ils vont rencontrer au quotidien sur la route. Donc du coup, forcément, c'est quand même relativement important. Après, les changements, oui, il y en a eu des changements parce que lors du dernier stage, il y a même une personne qui s'est motivée pour apprendre le code. Pour nous, c'est des bonnes nouvelles parce que en 15 jours, c'est une personne qui voulait pas voir le code, qui voulait pas entendre du code et qui a apprécié d'apprendre le code. Et donc, du coup, pour un formateur, c'est une vraie victoire. Et donc, du coup. Et puis, oui, il y a des personnes qui ont changé dans leur réflexion, vis-à-vis des facteurs d'accident notamment, où j'essaie d'apporter quand même une sensibilisation importante, parce que on a encore beaucoup d'accidents sur la route, et donc du coup il faut aussi réfléchir à avoir les bons comportements, et donc du coup en insistant un petit peu dessus on arrive à convaincre quand même une partie du public pour avoir les comportements les plus adaptés sur la route.
Christophe, il s'est bien détecté les personnes qui peuvent avoir...
Il suffit d'écouter, c'est-à-dire que dans l'écoute, on voit rapidement, et puis l'expérience fait que, il y a des personnes qu'on sent rapidement qui peuvent aller dans l'excès ou pas raisonnable sur la route ou dans le non-respect de certaines règles.
Ouais, donc vous percevez les personnalités, vous adaptez en fonction.
Après c'est essentiellement de l'écoute et puis de l'expérience, c'est-à-dire s'il y a des discours qui sont tenus et qui sont c'est toujours les mêmes depuis des années, donc du coup c'est quand même pas un gros travail de les détecter. Ouais.
Et puis ensuite, effectivement, il y a la partie code, mais on en profite aussi pour faire une évaluation de la conduite.
Oui, alors moi, j'ai voulu sur le programme qu'on associe quand même le code de la route aussi, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, le code de la route avec vraiment les situations réelles. Donc du coup, pour faire le lien entre le code de la route et bien sûr la conduite, j'ai proposé, on a des outils comme le simulateur, qui a permis à tout un chacun d'appréhender les premiers geste de conduite, on va dire, en sécurité et en confiance.
Alors, le simulateur, vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est,
un simulateur de conduite qui permet de se mettre en situation de conduite, et donc avec des pédales, un volant, et donc du coup, un écran qui permet de... avec des piétons qu'il ne faut pas écraser, des feux rouges où il faut
des
s'arrêter, des carrefours à sens giratoire,
en effet. Oui, j'ai expérimenté, oui.
Voilà. C'est bon, pas écraser de piétons au simulateur ?
Pas au simulateur. Coup et ça arrivait, mais au fur et à mesure, parce que ça prend un peu de temps, et j'essaie un peu quand même de ralentir ça s'est bien passé au dernier moment.
Il y a un petit temps d'adaptation.
Mais ça, c'est un super outil qu'a le complexe orbitalien. Ouais.
Et du coup, ça permet de donner du concret aussi.
C'est-à-dire que j'ai voulu aussi, pendant ce stage aussi, mettre de la pratique dedans. Et donc, du coup, à la suite du simulateur, on fait une évaluation de départ. Donc, ça permet de se mettre en situation dans une voiture, en boîte manuelle. Et donc, voir un peu les capacités de chacun, d'essayer de mettre en confiance aussi les personnes, parce que le code de la route, il y a des gens aussi qui hésitent à s'y mettre parce que aussi ils se voient pas en situation de conduite après par la suite, donc il y a des fortes appréhensions sur une partie du public sur la conduite en elle-même aussi, donc il fallait faire ce lien. Voilà, donc le stage se veut accélérateur en termes de connaissances et lien pour passer à la suite, c'est-à-dire la pratique et l'autonomie qui va avec.
Ouais, ça donne un objectif, ça donne quelque chose de plus concret.
Oui, c'est ça, ouais, c'est plus parlant. Et puis moi, ça me permet aussi en cours de faire le lien entre voilà, ce qu'on a vu en conduite, ce qu'on a vu en salle, comment on va l'utiliser et des choses comme ça, parce que c'est extrêmement lié, hein, tout simplement. Les connaissances doivent être mises en œuvre sur la partie pratique.
C'est l'unique simulateur en Lozère, j'imagine. Hein,
quand...
Il y en a un autre, d'accord, la mission locale. Donc du coup, Chafi venait au cours du soir.
Oui, Chafi était une des personnes les plus motivées. Et, bon, il était avec un groupe qui était très motivé aussi, donc du coup, voilà, et ça paye, hein, donc le félicite encore.
Merci vraiment.
Et non, il n'y a pas de surprise. Du coup, Audrey, Chafi nous a dit que c'est Habitat et Humanisme qu'il a dirigé vers ces sessions de codes intensifs. Vous avez tout un réseau de partenaires, j'imagine, avec lesquels vous travaillez pour que des personnes puissent être envoyées dans ces dispositifs-là.
Oui, tout à fait. Donc, le réseau associatif voilà, partenaire... et varié, et on a effectivement tout un tas de personnes qui peuvent être orientées sur ces dispositifs via donc ces associations. Je peux en citer quelques-unes.
Oui, hein,
voilà, Habitat Humanisme, du coup, le Centre de demandeurs d'asile, Quoi de Neuf, Alloès, la LM, Aurore, tout à fait, la Traverse, voilà. Donc toutes les personnes enfin, tous les chantiers d'insertion, hein, aussi, parce qu'on voit que les personnes voilà, qui sont dans les chantiers d'insertion, Jardin de Cocagne ou les contrats verts, par exemple, ont besoin aussi de pouvoir se déplacer, d'arriver jusqu'au travail. Et donc, obtenir le code et le permis, c'est souvent un objectif. Voilà, donc, les partenaires nous connaissent bien. On doit faire une évaluation des personnes qu'elles suivent dans un accompagnement social ou plus global. Et si le frein de la mobilité et en tout cas l'envie aussi d'accéder au code de la route et au permis est relevé, voilà, ils me sont orientés et... Voilà, donc on établit une liste de personnes intéressées et on jongle pas mal sur la fin, à savoir qui va participer, parce que bon, le nombre de places est limité.
C'est 5 sessions, hein, il y a eu 5 sessions cette année. Depuis l'année dernière.
Ce jour,
ouais.
Oui.
Avec
une douzaine de stagiaires à chaque fois.
Hein. Ah ouais, ça reste limité. C'est...
Voilà. Donc, on organise une information collective, et ça, j'y tiens, sur place à peu près 3 semaines avant le début de la session. Parce que les structures qui orientent les personnes, parfois, sont venues elles-mêmes voir sur place comment ça se passait, mais pas toutes. Et donc, c'est vrai que dans la retranscription de comment ça se passe, du lieu, de comment les personnes ont accès à certaines choses et tout, y a des informations qui sont difficilement transmissibles, en fait. Donc, l'idée, c'est de pouvoir permettre aux personnes qui vont venir au stage de se projeter et donc de venir voir. Donc, on passe 1h30 sur place... il rencontre Christophe qui explique voilà, comment ça va se passer, comment il travaille. Il visite les gîtes, comme ça il voit les chambres, là où ils vont manger, le lieu. Et donc tout ça permet de se dire, bon ok, ces conditions me conviennent, ouais, ou ne me conviennent pas, et je confirme ma volonté de venir ou pas. Voilà.
Je pense que on va s'envoyer des fleurs, mais la qualité de l'infrastructure, je pense aussi, est de nature à donner envie. parce que le cadre est quand même plutôt adapté et agréable. On a le village de Gide, bon, c'est labellisé 3 étoiles, donc c'est quand même de qualité. Et je pense que ça contribue aussi à donner envie. Et c'est aussi sans doute une raison, alors c'est une raison secondaire, mais dans la dynamique qui se crée, le fait de... Je pense aussi que d'avoir cette attention vis-à-vis de ce public, vu les parcours de vie que les gens ont eus, ils n'ont pas toujours eu et tout le temps cette attention-là. Et je pense que ça fait partie aussi de la dynamique qu'on crée. C'est-à-dire que quelque part, on prend en compte la personne, on la respecte, et ça fait partie aussi de ce travail pour avoir une meilleure une confiance en soi, une meilleure image de soi. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'objectif premier, c'est effectivement l'obtention du code de la route et du coup derrière du permis de conduire, mais au-delà, c'est aussi un début pour avoir une meilleure confiance en soi. C'est peut-être pour certains un diplôme, enfin c'est pas un diplôme, mais enfin une réussite, et ça peut être aussi le démarrage, puisque là, je peux acquérir des connaissances et on me confère derrière ce diplôme, hein. Oui. Ça peut être aussi le début pour autre chose.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette confiance en soi qui peut...
Oui, ça participe à changer aussi le public, oui. Et la réflexion, la capacité aussi, les capacités d'apprentissage ou les choses comme ça. Après, je rebondis un petit peu sur les hébergements. Voilà, mes collègues m'aident bien pour mettre en place ça, et donc du complexe euro-méditerranéen. Et donc, du coup... on s'est rendu compte quand même que les personnes qui étaient vraiment internes, enfin voilà, c'est-à-dire pensionnaires, ouais, à plein temps, et donc du coup créer quand même un ému le plus important, et donc du coup il y a le vivre ensemble à côté, il y a plein de choses qui font que ça fait aussi évoluer aussi les mentalités et même l'entraide qui avait certainement hors des séances de cours, apparaissait aussi pendant la séance de cours. C'est-à-dire que, voilà, moi, quand je suis en évaluation de départ et qu'ils sont un tout petit peu en autonomie, ils arrivaient par l'intermédiaire du groupe de se soutenir, de s'entraider, de traduire ce que je pouvais pas faire étant absent. Traduire un peu les questions. Voilà, c'est ça. Et c'était vraiment ciblé sur les personnes qui étaient vraiment en permanence H24 sur ces 5 jours ensemble.
Chafi, vous vouliez compléter ?
C'était juste et augmenter sur ce que Christophe a dit. Comme on était organisé là-bas, et comme nous, peut-être qu'on avait des difficultés le week-end de se rendre à nos maisons. Et il y avait des équipes entre nous, et les gens qui ont des membres de famille qui ont des voitures, ils venaient. Et toi, est-ce que tu as trouvé ton moyen de te déplacer? Je dis pas encore. Ok, tu peux aller avec nous. Okay. On s'est organisé quand même, c'est bien. Et c'est bien vraiment.
Il y avait une vraie entraide.
Une vraie entraide, oui.
Et alors, du coup, maintenant, Chafi, alors vous avez eu votre code de la route.
Bien sûr.
Alors, combien de fautes? Dites-nous quand même.
Et j'ai fait 4 fautes.
Bon, allez, voilà. Super.
C'est à partir de combien qu'on le loupe?
6.
6. Oh, bon, on était large. Hein. Oh, on pouvait en faire une de plus.
Ouais. Hein. Ouais. C'était large. Merci. Donc, vous avez passé votre code. Vous êtes en train de suivre des cours de conduite dans l'objectif d'avoir votre permis. Votre projet, donc?
Ok, mon projet... Après avoir eu mon permis, et je vais m'acheter une voiture. Et comme là, j'ai un travail juste à côté de la maison, j'essaie quand même de mettre quelque chose à côté. Parce que je suis sûr que le permis, je vais l'avoir.
Super, vous êtes motivé.
Oui, et après avoir eu mon permis, ça va me donner beaucoup d'ouverture. Parce que j'ai plein de projets à faire. Et j'ai des formations aussi à me déplacer pour d'autres emplois dans les jours à venir. Vraiment, ça me fait du bien. Et aussi, pour les enfants, comme j'ai une famille, et puis me déplacer avec les enfants, les amener à l'école, et faire de la course, parce que chez nous, c'est un peu éloigné de la ville. Et aller à Mende, faire la course, et ça fait du bien, vraiment. Et puis, j'ai remercié aussi vraiment l'équipe organisateur de me faire partir de cette expérience, parce que ça m'a beaucoup aidé. Et c'est toute une leçon de vie que j'ai appris à ce code intensif. Hein, parce que Christophe nous a appris plein de choses. Et puis qui s'est lié entre la vie quotidienne. Et avec tout cet étude-là qu'on a fait, vraiment, pour moi, c'était une bonne expérience.
Et vous avez gardé des liens avec certaines personnes du groupe ?
Oui, oui, on a un groupe WhatsApp. Et d'ailleurs, des fois, on se parle des évolutions et ceux qui n'ont pas encore eu leur code, compte tenu, par exemple, les difficultés des langues. Mais eux aussi, ils évoluent bien. Et on a toujours des suites et en moyennant les groupes. Et moi, ça se passe bien.
Ah, c'est super. Bon, vous pourrez leur mettre le lien de l'émission pour qu'ils vous écoutent.
D'accord, vraiment, merci.
Ouais. Et c'est intéressant ce que dit Shafi, parce que c'est vrai qu'on parle mobilité, on parle travail toujours, mais on l'a un peu dit, hein, c'est une question transversale. Hein, on ne se déplace pas que pour travailler. Hein, faut amener les enfants à l'école, il faut aller faire les courses, il faut aller chez le médecin. Et on n'en a pas trop parlé dans cette émission des problèmes de mobilité dans des départements ruraux comme la Lozère, parce que bon, on y est tous confrontés, mais c'est encore plus compliqué chez nous à la campagne. De se déplacer quand on n'a pas le permis. Ouais.
Et c'est sûr. Et comment vous faites d'ailleurs quand, à l'heure actuelle pour venir sur Mende ? C'est les bus les...
Oui, pour l'heure actuelle, j'essaie un peu de me débrouiller. Et il y a aussi des bus qui n'est pas trop régulier. Mais il y a aussi déjà des bonnes fois, comme des voisins. Et des fois, quand ils aillent à Mende, je leur propose. Et surtout les parents des élèves de l'école de mes enfants. Et on a quand même cette entrée, on se parle, est-ce que vous allez au travail à Mende, vous me ramenez ? Je dis ok, on peut aller ensemble. Comme aujourd'hui le matin, c'est un des parents des collègues de mes enfants qui m'a ramené sur Mende.
Ah, c'est super.
Oui.
Mmh. Alors, bientôt, c'est ton tour, hein, quand tu auras le permis et la voiture.
Oui, vraiment, hein, j'ai hâte, vraiment.
Oui. Oui. On a un bilan un peu de ces formations, un bilan des résultats. On parlait de 50% de réussite, c'est ça à peu près
Oui, à peu près, on est là, voilà, 50% de réussite aujourd'hui.
Après, je pense qu'il faut attendre un petit peu. Voilà, il y a certaines personnes qui sont en sortie de stage, comme je disais, je parlais d'accélérateur. Voilà, il y a certaines personnes qui ont certaines difficultés ou alors qui partaient de zéro, qui font que voilà, il faut attendre un peu de travail personnel aussi parce que parfois le stage n'est pas suffisant. Donc Shafi est un bon exemple, mais voilà, il y a des gens qui ont plus de problématiques d'apprentissage qui font que
plus de temps.
Et tout simplement plus de temps, voilà, de pouvoir digérer un petit peu toutes ces informations, de pouvoir les exploiter. Et donc, du coup, voilà, je pense que les retours aussi, il faut attendre quelques...
Sur du moyen terme.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Pour les personnes en situation de handicap, Anne m'a donné quelques chiffres pour préparer cette émission. Alors, c'est selon l'INSEE en France, hein, près de 12% de la population présente une limitation d'activité liée à un handicap. Et une étude sur la mobilité des personnes handicapées menée par le ministère des Transports démontre que les personnes handicapées réalisent 20% de déplacements quotidiens en moins que les personnes valides sur des courtes distances et quasiment 50% de moins sur des longues distances. Donc c'est énorme, hein, ça double...
Ah ouais, tout à fait.
Mais après, enfin, indépendamment du stage, l'auto-école, nous, elle a été créée pour ça. C'est donc vraiment permettre à des personnes en situation de handicap de pouvoir passer le code et le permis. Et donc, on a à la fois des stagiaires. Alors là, je parle hors ce stage. Hein, mais on a des élèves donc, qui sont dans des établissements médico-sociaux lausériens, mais aussi des personnes qui sont en situation de handicap et qui, parce que dans les auto-écoles classiques, quand ça peut poser problème, ils viennent plutôt chez nous. Mais après, il y en a aussi qui font dans les autres auto-écoles de Lozère. Et nous, notre volonté, c'est pas de venir modifier des équilibres existants ou quoi que ce soit. C'est vraiment en complémentarité.
C'est une solution,
et je pense d'ailleurs,
on est plutôt en bonne intelligence. On essaye de répondre aux attentes que les autres auto-écoles ne peuvent pas répondre.
Oui, pour certaines personnes, c'est compliqué d'aller dans une auto-école lambda. Hein.
Voilà. Et puis après, on fait aussi, comme il y a le centre de rééducation fonctionnelle sur le site, on est amené à faire un certain nombre d'évaluations pour voilà, des personnes qui viennent en rééducation, qui ont eu un accident et qui veulent savoir si il leur est possible de pouvoir à nouveau conduire avec éventuellement une adaptation
une réhabilitation à la conduite.
Et donc Christophe fait un certain nombre de ces évaluations pour donner un premier avis et qui ensuite est validé ou pas par le médecin.
Avec des préconisations d'aménagement, je crois.
Tout à fait, oui. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'évalue les personnes qui se retrouvent dans une difficulté particulière à un instant, lié à un accident de la vie. Et donc, du coup, je les évalue dans un premier temps. Pour ceux qui en ont besoin, donc je préconise des aménagements qui me semblent judicieuses. Et donc, du coup, après, je les accompagne aussi parfois jusqu'à la régularisation de leur permis, c'est-à-dire la mise en place de codes sur leur permis liés à leur handicap et à l'aménagement aussi donc, du permis et de la conduite. Et bien sûr, il y aura forcément l'aval du médecin agréé à la conduite.
Voilà, on avait eu Jordan qui avait eu son permis en passant le code grâce au cours, il me semble. Ouais,
tout à fait, il y avait eu Wesley aussi.
Oui, donc c'est des. Alors là, c'est un public différent,
jeunes, de jeunes de l'Institut d'éducation motrice.
Voilà, et du Clos d'Uni. Et donc, du coup, je travaille aussi avec. Voilà, c'est des travailleurs ESAT qui ont des troubles divers et variés. Et là aussi, la difficulté essentiellement, c'est le code de la route. Donc on passe beaucoup, beaucoup de temps sur le code de la route. Avec les difficultés.
Et justement, lors de cette émission, on avait parlé des adaptations lors du passage du code que ces personnes pouvaient avoir. Est-ce que c'est vrai aussi pour des personnes comme Shafi, qui lui n'a pas de handicap, mais qui a des problématiques autres liées à la langue
j'adapte mes cours, bien
donc
entendu.
Donc vous adaptez les cours, mais après, lors du passage.
Après, lors du passage de l'examen, comme l'a passé Shafi, lui, il l'a passé de façon autonome, normale. Sur tablette, dans un centre agréé pour passer le code de la route. Après, il y a un dispositif qu'on appelle non francophone, donc pour les personnes qui sont en situation étrangère avec des problèmes de langue, ils ont même le droit à des traducteurs. Et les personnes en situation de handicap ont le droit aussi d'accéder à ces séances qui permettent... C'est le même niveau, donc du coup, c'est le même niveau d'exigence, c'est les mêmes questions, le barème est le même, il n'y a pas de différence et c'est normal. Et donc du coup, par contre, il y a un aménagement, c'est-à-dire l'inspecteur, sur demande, peut reprendre la question et reformuler la phrase jusqu'à ce qu'il y ait la compréhension de l'information qui est demandée ou de la réponse qui est exigée.
Oui, c'est notamment bien aussi pour les personnes qui ont été, qui bénéficient d'une reconnaissance travailleurs handicapés, qui ont des problèmes de dyslexie
oui.
Notamment, et qui du coup, bénéficient peuvent bénéficier de ce genre de code, dit non francophone, avec effectivement ces reformulations. Disons qu'ils ont un petit peu plus de temps pour...
Ça leur laisse un petit peu plus de temps.
Pour répondre, voilà.
Très bien, mais écoutez, je vous remercie. Ça fait une heure d'émission. Cette émission se clôture. Je crois qu'on a bien fait le tour. On vous souhaite encore, bien sûr, une bonne nouvelle année. Anne, on va parler de quoi le mois prochain? On a quelques idées?
J'ai plein d'idées, mais je ne sais pas encore de quoi exactement. Mais c'est reparti, en tout cas, pour une année et pour une émission tous les mois sur 48FM avec toi. Et voilà, c'était chouette cette année qui était passée. Donc, du coup,
très
on renouvelle ça sur 2025.
Voilà, vous nous retrouverez tous les mois. Et là, on vous fait une petite surprise pour le mois prochain.
C'est ça. On ne sait pas encore. On a plein d'idées, mais je ne sais pas.
Voilà. Merci à tous d'être venus dans cette émission. Et on croise les doigts, Shafi, pour le permis de conduire.
Merci beaucoup. Merci vraiment.
On donnera l'info. Aux émissions suivantes, on a l'habitude de donner des nouvelles, des témoignages des personnes qui sont venues dans les émissions précédentes. Donc, dès qu'on a l'info sur le permis, on communique.
Oui, merci. Je vais vous... C'est madame Audrey qui va vous la communiquer.
Super.
D'accord.
À très bientôt.
Allez, Audrey, il ne faudra pas oublier. Hein. Allez, merci à tous.
Merci.
À la prochaine.
Hashtag. Un autre regard sur le handicap.